Donc on reprend la suite, vraiment orienté stockage des données de recherche. Donc on va commencer assez classiquement avec des définitions. Donc si on prend, ça devait être Wikipédia là, on a... Pour... Ça passe pas. Ça passe pas. Là ça passe. Donc la définition, enfin un extrait de la définition, parce que sur le stockage il y en a 50 pages. Mais si on enlève l'essence de la définition, c'est les actions, outils et méthodes permettant d'entreposer des contenus électroniques et servant de base au traitement ultérieur des contenus. Donc ce que ça veut dire en français de tous les jours, c'est une manière de déposer des fichiers quelque part pour pouvoir les retrouver et travailler dessus. Donc jusqu'ici, c'est assez simple. Ensuite, on nous explique que le stockage peut être réalisé sur divers supports et que la qualité du matériel joue un rôle non négligeable dans la durée de vie. Ça, c'est une manière de dire, faites attention où vous mettez vos données, parce que vous pouvez les perdre, tout simplement. Donc ensuite, je vais parler très rapidement d'archivage. Parce que souvent, on se rend compte, quand on rencontre les chercheurs ou les doctorants, qu'il y a pas mal de confusion entre ces deux termes. Donc le stockage, on vient de l'aborder, hein, c'est une notion assez simple que tout le monde utilise un petit peu au quotidien. L'archivage, c'est quelque chose de très spécifique. Bien souvent, dans la tête des gens, l'archivage, c'est un peu c'est du stockage, c'est de la sauvegarde, on ne sait pas trop. On dit l'archivage parce qu'on a entendu le mot. En fait, ça regroupe, ça définit un type d'action bien spécifique. Ça correspond à la conservation à très long terme des données, des fichiers informatiques. Quand je dis très long terme, c'est plusieurs décennies. En général, on parle de au moins 30 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie, l'archivage? Ça veut dire que l'endroit où on va déposer les données, ces données vont être testées régulièrement. Les formats vont être convertis dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, on a toutes nos images au format JPEG. On ne sait pas si le format JPEG, dans 30 ans, il existera toujours. Donc les organismes qui assurent l'archivage, qui sont assez peu nombreux, on va le voir, eux, ils vont se charger de convertir. Si demain, il y a un format qui supplante le JPEG, par exemple, pour prendre cet exemple-là, l'organisme qui gère l'archivage va se charger de la conversion des fichiers pour que dans un siècle, on puisse toujours lire les fichiers, alors que le JPEG, dans un siècle, ce sera de l'archéologie. Et on parle aussi des choix des supports. On sait bien que dans le temps, on a eu les cartes perforées, on a eu les disques durs, on a eu des bandes magnétiques, on a eu de la mémoire flash, des disquettes, des CD, on pourrait faire tout le tour comme ça. Et on a l'impression qu'on met ça dans un coin et que ça va durer toute la vie. On sait bien que nos CD d'il y a 10 ans, ils marchent déjà plus, ils sont oxydés. Les disquettes, on n'en parle même pas. Je sais même pas si vous savez ce que c'est qu'une disquette. Les disques durs, je pense que tout le monde a déjà eu au moins un disque dur qui a lâché dans sa vie, un disque dur ou une clé USB. Donc on voit bien que les supports sont pas vraiment pérennes et que si on veut conserver nos données, il faut vraiment y prendre grand soin. Donc on voit bien que l'archivage c'est pas quelque chose de simple, hein, ça englobe ça a beaucoup de précautions. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le faire. Et surtout, ce que ça implique, c'est que c'est une démarche qu'il faut commencer à avoir dès la conception des données. Parce que si on gère nos données un peu n'importe comment, comme vous le faites tous, j'imagine, le jour où on va se dire, voilà, maintenant j'ai plein de données, je vais les archiver, et ben on va se retrouver une masse de travail à réaliser pour pouvoir les archiver, qui bien souvent va être dissuasive et qui fera que le projet d'archivage ne pourra pas aboutir. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit distinguo entre le stockage et l'archivage. Je vais pas en dire beaucoup plus sur l'archivage. Aujourd'hui, on va se consacrer sur le stockage. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de stockage? Alors, j'ai identifié deux raisons principales. La première, c'est qu'on a une très forte augmentation exponentielle de la production des données numériques. Donc, il y a un besoin d'émerger, de les gérer qui a émergé. Avant, on avait 5 fichiers Word, son CV et puis 3-4 documents des listes de courses. On avait ça sur une disquette et puis c'était bon. Aujourd'hui, on génère avec un smartphone quelques gigas de données toutes les semaines. On voit bien qu'il faut s'organiser pour pas se laisser déborder. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on en parle, et ça rejoint un peu la présentation d'Hervé avant, c'est qu'on a un risque important, et j'insiste sur le mot important, de perte de données. Moi, des gens qui arrivent en troisième année de thèse ou quatrième année de thèse et qui arrivent dans mon bureau en disant mon disque dur a rendu l'âme, comment je fais? Ben moi, j'ai pas de solution. Il peut y en avoir, mais souvent il y a des fins un peu dramatiques. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, et ça peut avoir des conséquences très très importantes. Donc il faut se protéger. Enfin, il faut protéger ses données en tout cas. Sur le premier point de l'évolution de la production des données numériques, qu'est-ce qui explique ça? Ben, c'est assez simple. Vous avez sans doute entendu parler des campagnes de numérisation qu'on a dans... Aujourd'hui, on numérise tout. Hein. Le numérique, c'est relativement récent à l'échelle de l'histoire. Donc, tout ce qui est analogique avant sur des supports divers et variés, aujourd'hui, on le numérise. Et ça produit des quantités énormes de données. J'ai retrouvé un chiffre qui n'est pas récent, mais qui a le mérite d'être officiel. En 2011, donc il y a 6 ans, 5 hexaoctets de données étaient générés tous les 2 jours. Et 2 ans après, donc en 2013, la même quantité de données, c'était en 10 minutes. Donc on voit vraiment, quand je parle d'évolution exponentielle, c'est vraiment flagrant. Et là, je vous dis ça, personne ne réagit, parce que personne ne sait ce que c'est qu'un hexaoctet, j'imagine. Ouais. Donc j'étais gentil, je vous ai fait un petit tableau. Alors c'est un rappel pour certains, peut-être d'autres vont découvrir des choses. On s'est un peu battu avec les collègues pour savoir ce qu'on mettrait dedans, parce qu'il y a plein de choses, enfin les unités de mesure en informatique, il y en a vraiment beaucoup. J'essaie de rester simple. Donc l'unité de base en informatique, c'est l'octet. Alors un octet, ça représente vraiment pas grand-chose. Si vous avez un email avec bonjour, au revoir, ça va faire 500 octets. Donc on voit que déjà, rien du tout, ça fait déjà beaucoup d'octets. Si dans le bloc-notes sous Windows, vous créez un fichier texte et que vous le laissez vide, donc c'est un fichier qui contient du vide, ça fait déjà 5 kilos. Donc 5 kilo-octets, on n'est déjà plus dans l'octet, on est déjà dans le kilo-octet, c'est 5000 octets. Donc on voit que l'octet, c'est vraiment... c'est l'échelle microscopique. Quoi. Donc ensuite, chaque ligne du tableau, on va faire x 1000 en taille. Un peu comme le mètre et le kilomètre. Donc le kilo-octet, c'est un petit document Word sans image, un email sans pièce jointe, ce genre de choses, des petits documents qu'on s'échange à longueur de journée. Ensuite, 1000 fois plus gros, on a le mégaoctet. Là, on est dans le genre, bah, par exemple, ce document-là, PowerPoint, il n'y a pas trop d'images, mais il doit faire quelques 3-4 mégaoctets. La présentation de Hervé avant a dû peut-être faire, je sais pas, 15-20 mégas. Une photo qu'on prend avec un téléphone ou un appareil photo, c'est 4 mégas à peu près, suivant la résolution, suivant les réglages. Bon. Pour donner une idée, un email avec un PDF joint, c'est à peu près 4 mégas. Et pour stocker ça, un CD-ROM, qui est déjà un peu ancien, le CD-ROM, on n'en utilise plus trop, c'est 700 mégas. Ça donne une idée un peu des échelles de grandeur. Ensuite, 1000 fois plus grand que le mégaoctet, on a le gigaoctet. Donc là, on a le successeur du CD-ROM qui était le DVD-ROM. Donc un DVD, c'est à peu près, vous faites peut-être le calcul, 6 DVD. 6 CD, pardon. Aujourd'hui, une clé USB, ça se mesure en gigas. Donc une petite clé USB, ce qu'on appelle une petite clé USB, c'est 8 gigas. Les grosses clés USB, ça va être 128 gigas. Bon, on trouve des clés beaucoup plus grosses, mais la fourchette se situe à peu près là. Et la taille d'un disque dur, par exemple dans cet ordinateur, ça doit être à peu près un 500 gigas. Donc le giga, déjà, on commence à pouvoir stocker un peu l'intégralité de ces données si on n'en a pas trop. C'est cette unité de mesure. Ensuite, 1000 fois plus gros que le giga, on a le téraoctet. Donc là, le téraoctet, vous au quotidien, vous le verrez pas si souvent, sauf si vous êtes un collectionneur de films, ce que vous n'êtes pas. Si on prend 200 DVD du commerce, donc pas des films compressés tels qu'on peut les trouver sur Internet, mais vraiment les films du commerce, un téraoctet, c'est à peu près 200 films DVD, l'équivalent de 200 films DVD. Et moi, j'ai appelé ça un gros disque dur, avec un gros en gras. Parce qu'aujourd'hui, les gens demandent un petit disque dur de 3 Tera. En fait, non, il faut bien se rendre compte que même si aujourd'hui, effectivement, un Teraoctet, ça coûte 60 euros, c'est pas un petit disque dur. C'est-à-dire que dessus, on peut mettre plus d'informations qui ont été créées en 4000 ans d'histoire de l'homme. Donc c'est vraiment, c'est pas des petits disques durs, c'est des gros disques durs, même si physiquement ils sont tout petits, dans lesquels on met énormément de choses, et si on les perd ou si on les casse, eh bien on perd énormément de choses en conséquence. C'est pas parce que c'est miniature que c'est petit. La taille au-dessus, c'est le péta, donc pétaoctet. Donc là, ça vous parle encore moins en termes d'espace. J'ai mis comme ça, en inventant un petit peu, mais en cherchant un exemple simple dans ma tête. Là, on n'est plus à la collection perso de DVD. Là, on est à tous les DVD de la Fnac. Ça tient sur un pétaoctet. Donc là, on n'a pas ça. C'est pas accessible pour un particulier, même pour les entreprises. On arrive dans le gros data center. Et puis l'unité de mesure au-dessus, on arrive à l'hexaoctet dont on parlait avant. Là, c'est tout l'entrepôt d'Amazon. Et là, en fait, ça dépasse un peu. C'est comme quand on essaie de réfléchir à la taille de l'univers. On n'a pas trop de références à ce que ça peut représenter. Donc, si on revient sur la slide précédente, donc 5 hexaoctets, donc 5 fois tout l'entrepôt d'Amazon, toutes les 10 minutes. Donc, on ne se rend pas compte, mais on produit des données tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et ces données, donc, on les stocke un peu n'importe où, un peu où on peut, et un peu, en fait on n'y fait pas bien attention bien souvent, sauf des fois on a un fichier, on se dit ah celui-là il est important, je vais en faire une copie, je vais l'envoyer par mail. Bon, en fait on protège pas grand chose, on protège le travail qu'on a fait parce que pendant une matinée on a beaucoup travaillé et on se dit que c'est important, et tout le reste on le néglige. Donc j'ai listé globalement dans les colonnes les types de stockage qu'on utilise au quotidien. Les principaux, hein. Et puis par ligne, les risques qu'on peut rencontrer. Donc les types de stockage, c'est le stockage local, typiquement là sur mon ordinateur portable ou sur mon ordinateur de bureau, posé sous mon bureau. Ça peut être aussi dans mon smartphone, même si bon, c'est un peu différent. Le stockage externe, c'est le disque dur externe qu'on branche, c'est éventuellement un NAS qu'on a chez nous, comme ça a été évoqué avant, c'est la clé USB. On a tous une clé USB dans la poche. Le cloud, bah, vous connaissez, c'est les OneDrive, c'est les Dropbox et compagnie. Je pense que tout le monde a au moins un compte sur ces services. On verra, Hervé a déjà dit qu'il fallait faire attention. Je vais en mettre une couche. Et puis, la dernière case, c'est le stockage institutionnel. Donc, c'est vraiment ce que je vais évoquer par la suite. C'est qu'est-ce que nos institutions mettent en place pour nous rendre la vie facile, pour protéger nos données et pour éviter qu'on prenne des risques inutilement. Donc les risques évoqués, donc la panne matérielle, bah ça c'est comme tout appareil, ça peut tomber en panne parce que ça arrive en fin de vie, parce que c'est de la mauvaise qualité, parce qu'on n'a pas été très soigneux forcément. Alors sur son ordinateur, eh ben, c'est mort, ça tombe en panne. Alors on peut essayer de faire restaurer un disque dur, il y a des sociétés privées qui font ça, ça marche ou ça marche pas. Un disque dur c'est à peu près 1000 euros, ils font ça en chambre blanche, ils changent les pièces, l'électronique, etc. Qui est prêt à mettre 1000 euros pour récupérer des données, aussi importantes soient-elles? Peu de gens. Moi j'ai vu des chercheurs ou même des directeurs d'unité avoir besoin de récupérer vraiment des choses importantes pour la vie d'un laboratoire et finalement renoncer à payer parce que payer 1000 euros pour ne même pas être sûr de récupérer ces données, bon, on essaie de faire autrement. Le stockage externe, c'est pire, c'est la même chose, c'est la fin de vie, sauf que ça arrive beaucoup plus souvent. La clé USB ou le disque dur, on se le trimballe dans le sac à dos, dans la poche, on le laisse traîner dans un coin, au fond de la valise. C'est soumis au choc, c'est soumis à tout ce qu'on veut, au changement de température. Électricité statique, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, ça bouge beaucoup plus bien souvent qu'un ordinateur qui lui est, on y fait un peu attention à l'ordinateur. Alors le cloud, je suis pas fan du cloud, mais là pour le coup, on est un peu protégé des pannes matérielles parce que c'est vraiment la société qui va gérer ça, et en principe, ils ont des systèmes pour nous protéger de ça. Donc ça c'est un avantage du cloud, mais bon, c'est pas pour.
Déjà des clouds où on recevait un mail, ah ouais, on ferme notre cloud.
J'y viens. C'est le gros souci du cloud. Nos institutions, un peu comme le cloud, là, ils nous protègent par rapport à ça, donc tout va bien. La fausse manipulation, typiquement, j'ai effacé un fichier, ou le chat a marché sur l'ordinateur, ou il peut se passer n'importe quoi, ou j'ai rien fait mais ça a disparu, on l'entend souvent. Bah là, c'est pareil, on est mal. Que c'est soit stocké localement ou sur un stockage externe, c'est pareil. Fausse manipulation, on appuie la donnée. Sur le cloud, bah, c'est pareil, hein. Ou soit l'information elle est perdue. Alors sur le cloud, j'aurais pu mettre un modulo parce que parfois il y a de la rétention pour ramener des choses, mais c'est rarement gratuit. Donc je ne le mets pas. Sur tous les outils institutionnels, on est garanti qu'il y a des systèmes de sauvegarde. Donc la fausse manipulation, a priori, sauf si on n'a pas de chance ou vraiment on met du temps à se réveiller, on a quand même une forte probabilité de pouvoir récupérer ces données. Le choc, la chute, ça c'est un peu comme la panne matérielle, hein, c'est, l'un peut déclencher l'autre. Donc même cause, même effet. La perte ou le vol sont un peu liés aussi. Même si l'intention n'est pas la même, le résultat est le même. Je vais faire court, on perd tout. Sans espoir aucun de retrouver, parce qu'on n'a même plus accès à la machine, pour même si on voulait payer pour restaurer des choses, on ne pourrait pas parce qu'on n'a plus accès au matériel. Alors pour les services de cloud, j'ai mis que le vol pouvait être un souci. Alors c'est pas le vol physique de nos appareils, mais par contre on se fait hacker son compte. Une fois que quelqu'un a accès à notre compte, bah, il peut modifier les données, les effacer, récupérer l'espace pour s'en servir pour lui, faire ce qu'il veut. Nous faire du chantage pour nous rendre nos données, qui ne nous rendra pas d'ailleurs, jamais céder au chantage, j'en mets une couche, dans ces cas-là. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de risques, sachant que là ils sont pas tous listés, et qu'il y a des choses parfois qui se passent qu'on n'imagine même pas. Et on voit que dans tous les cas, alors c'est pas que j'ai voulu truquer les choses, hein, c'est j'essaie de faire ça, hein, en étant un peu honnête, et le stockage institutionnel que j'ai mis en orange, eh ben, il nous protège de tous ces risques. Ensuite j'ai mis une petite ligne par rapport à l'archivage, j'y reviens, sur la compatibilité dans le temps, etc., toutes les choses que j'ai évoquées qui concernent l'archivage. On voit que dans aucun des cas c'est géré. Vraiment, l'archivage et le stockage, c'est deux choses différentes. Quel que soit l'endroit où on va stocker nos informations, on ne sera pas garanti qu'elles seront pérennes dans le temps très très longtemps. Quelques années sans problème, plus. Il faudra sans doute penser à une autre solution. Et pour répondre à monsieur sur l'arrêt du service ou les changements de conditions, ça c'est spécifique au cloud. Effectivement, on a un service qui est pas trop mal, enfin qui nous paraît bien, on y met des informations, c'est gratuit, c'est pratique, c'est séduisant. Sauf que du jour au lendemain, le service peut s'arrêter. Alors soit ils nous préviennent, ils sont gentils, ils nous préviennent 6 mois avant ou 15 jours avant, attention, récupérez vos données, on va fermer, ou on va passer payant, ou etc. Donc ça c'est au meilleur des cas. Sachant qu'en fonction de sa connexion internet, si on a pris l'habitude au fil des années de déposer nos fichiers dans le cloud, tout récupérer, ça peut être compliqué. Si on habite un peu à la campagne avec des connexions un peu lentes, ben on peut ne pas avoir le temps de tout récupérer, ou bon, ça me paraît un peu dangereux de miser là-dessus. Pire, le service s'arrête, typiquement dépôt de bilan de la société ou hacking, enfin on imagine n'importe quoi, descente du FBI, ça s'est vu. La société ferme, bah de données, on les a plus. On perd tout, un peu comme si on s'était fait voler son ordinateur. Pourtant, on pensait bien faire les choses, on pensait que nos données étaient bien au chaud sur un serveur en Floride, ou en Chine, ou on sait pas où d'ailleurs, parce que dans le cloud, on sait vraiment pas où sont les données. Et c'est aussi un gros problème du cloud, c'est que, bah, comme disait Hervé avant, nos données, on les dépose quelque part, on les confie à quelqu'un, mais qui n'est pas un tiers de confiance. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être les exploiter à des fins commerciales, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Pour vos données perso, je vous le conseille pas, mais à la limite, ça vous regarde. Pour les données de recherche, clairement, il ne faut pas le faire. Ensuite, j'ai rajouté certainement une petite ligne au-delà des risques, il y a aussi une question de coût. Donc le coût du stockage local, bah, il est intégré quand on achète une machine. On compte pas vraiment. Le stockage externe, globalement, le coût il est assez faible. Hein. Aujourd'hui, je disais, un disque dur de 1 Tera, c'est à peu près 50-60 euros. Autant dire, c'est rien du tout. Le cloud, bien souvent, c'est gratuit. Ou des fois, on peut étendre ou avoir des services en plus pour quelques euros, quelques dollars par mois. Le coût est faible. Alors, je parle d'un coût, c'est un coût économique. Après, il faut prendre le coût global. Si on intègre les risques dans le coût, le calcul est différent. Par contre, ce que je voulais faire apparaître, c'est que le coût du stockage institutionnel, lui, il est relativement élevé. Parce que dans les bêtes serveurs, dans les data centers, un disque de 1 Tera, c'est pas un disque à 60 euros chez Amazon. C'est des disques professionnels qui bien souvent sont doublés pour permettre une tolérance aux pannes et qui sont dans des environnements protégés, etc. Électriquement, contre le feu, contre tout ce qu'on veut, avec des duplications de données dans tous les sens. Et ça, c'est un coût qui sont pris en charge par les institutions. On paye des impôts pour tout ça. Ce sera vraiment dommage de ne pas l'utiliser parce que ça rend des avantages et en plus, on paye pour. Ça va jusqu'ici ? Ouais. Alors, comment faire face à tous ces risques ? La solution, j'ai déjà donné en fait, c'est d'utiliser les outils institutionnels, alors qu'ils soient locaux ou nationaux. Local, c'est au niveau de la ville ou de la région, ou ce genre de choses. Puis au niveau national, c'est par exemple le CNRS qui peut mettre en place des outils. Donc, les gros avantages. En plus de ceux que j'ai déjà évoqués avant, d'utiliser ces infrastructures, déjà la première chose, c'est qu'elles nous sont dédiées. C'est pas des choses qu'on va partager avec toute la planète. Donc forcément, vu que c'est que pour nous, on a un risque d'avoir une meilleure qualité de service. C'est comme entre avoir un cuisinier à la maison ou un acheter ses courses à Auchan. C'est pas la même qualité. Le service va être adapté à vos besoins. Nous, on travaille dans un environnement éducation-recherche. On va avoir des outils qui sont adaptés à nos besoins parce que nos usages en tant que chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens, c'est pas forcément les mêmes que chez Michelin, par exemple. La confidentialité est garantie. Donc, les serveurs sont hébergés comme des ERV en France, systématiquement. Alors, soit dans des data centers locaux nationaux, peu importe, mais à aucun moment ça passe par des pays amis ou ennemis. Ou d'ailleurs, on sait pas où ça va. Le cloud, c'est vraiment la grande interrogation du siècle. On sait vraiment pas où sont nos données. On sait qu'elles sont accessibles, mais où elles sont, on sait pas. Qui y accède, on sait pas. Donc, les données sont protégées, j'en ai parlé. La confidentialité, je viens d'en parler. Les coûts mutualisés, j'en ai aussi parlé. Alors, le risque de piratage limité, ça, on pourra en débattre pendant des heures. Ce qui est sûr, c'est que on a déjà entendu des histoires de Yahoo qui se fait pirater un milliard de comptes, de à peu près tous les grands services d'ailleurs qui se sont fait pirater toute leur base de données. C'est des gros poissons, donc ça intéresse les pirates. Nous, on est des plus petits poissons, c'est spécifique, donc on intéresse moins de monde. Alors, on intéresse quand même du monde, hein, l'espionnage, ça existe. Mais déjà, la masse de hackers qu'on intéresse, la surface est plus faible. Et on sait que des outils institutionnels, j'ai rien contre Dropbox, a priori, je sais pas qui gère ça, mais c'est le problème, en fait, on sait pas comment c'est géré, qui fait quoi, quelles sont leurs garanties, ils ont des contrats que personne ne lit, bon, c'est même pas des contrats de droit français, donc on sait pas à quoi ils s'engagent, et c'est quand même un peu, ça me paraît un peu limite d'aller chez eux. Et puis, bien souvent, on a une continuité de service, qui est garantie par la qualité des installations de nos institutions, notamment via Renater et puis via toutes les initiatives de chaque data center. Qu'on n'a pas forcément, on n'a pas du tout ces garanties dans les contrats privés sur les sociétés de services. Donc maintenant, je vais lister un certain nombre d'outils de stockage mis à disposition. Alors, pour différents publics, je reviendrai, je ferai une petite synthèse à la fin pour savoir qui a droit à quoi a priori. De manière générale, les universités, donc soit Tours, Orléans, Poitiers, je reviendrai un petit peu plus tard, proposent des accès, alors sous des conditions diverses, mais ça renseignez-vous auprès de vos informaticiens locaux. À des disques réseau qui proposent toutes les garanties que j'ai évoquées avant. avec un moyen simple de stocker des données très facilement dans un data center depuis votre ordinateur sans vous poser de questions. Parce que logiquement, vous aurez directement un lecteur réseau qui est monté ou quelque chose comme ça. Donc, à la limite, au-delà du fait du besoin d'être connecté au réseau, vous verrez pas la différence entre avec un stockage local. Il y aura que des avantages. Donc, avec de la sauvegarde, de la rétention, donc c'est-à-dire que si bah, on fait une erreur ou si on a un souci sur un document, on pourra revenir éventuellement sur des versions précédentes du document. Alors ça, embêtez pas trop vos services informatiques parce qu'ils aiment pas qu'on leur demande, mais il faut savoir qu'en cas de souci, ça existe. Il y a des mécanismes de déduplication souvent qui sont mis en place, c'est-à-dire que s'il y a par exemple la carte de vœux, alors la carte de vœux tout le monde l'a reçue en début d'année, là où on va la recevoir bientôt, tout le monde a la même, tout le monde la stocke, enfin on la stocke pas par plaisir mais parce qu'on l'a téléchargée de ses mails et donc elle est stockée quelque part, la déduplication fait qu'elle sera stockée une seule fois en fait physiquement sur les B plutôt que 4000 fois. Donc il y a une bonne utilisation des ressources qui est faite par nos universités. Le petit inconvénient qu'on pourrait souligner, c'est qu'il faut être connecté, il faut être sur le campus ou il faut être dans le bâtiment de la MSH ou dans votre laboratoire pour accéder à ces données. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que dans beaucoup d'endroits, comme disait Hervé, il y a des VPN qui existent. Donc je rappelle, c'est un tunnel sécurisé entre l'endroit où vous êtes, par exemple chez vous ou en mission à l'étranger, étranger ou en France d'ailleurs. Jusqu'à votre institution, ce qui fait que vous pouvez travailler à distance comme localement. Ça peut être un petit peu technique, mais bon, une fois qu'on a pris le coup, c'est simple. MyCore, donc qui est la bombe atomique du CNRS pour combattre Dropbox, grosso modo, c'est la même chose. Quelqu'un utilise Dropbox ici ? Ouais, il y a quelques-uns qui sont honnêtes. Donc derrière MyCore, c'est le nom qu'a donné le CNRS à son outil. Derrière, donc, c'est un outil qui s'appelle OnCloud, qui se cache pas d'être la copie quasi parfaite de Dropbox. Donc si vous avez pris des habitudes bonnes ou mauvaises sous Dropbox, n'ayez pas peur d'aller sous MyCore, c'est vraiment... vous serez pas perdu. Ils ont poussé la similarité jusqu'à avoir un client de synchronisation, c'est-à-dire que vous pouvez installer un logiciel, un client lourd sur votre ordinateur et vous travaillez sur votre ordinateur localement et les fichiers sont automatiquement synchronisés avec les serveurs du CNRS MyCore. Donc l'outil s'est complètement oublié et vraiment je vous le conseille. Donc soit on travaille en ligne, soit on a le client, le programme qu'on installe sur son ordinateur, on a une capacité de 20 gigas par utilisateur. Ce qui permet de faire quand même beaucoup de choses. Tout dépend ce qu'on veut y mettre, hein, mais si vraiment on y met que des fichiers de recherche, ça devrait suffire. Si on a un gros projet de recherche, clairement ça va pas être adapté. Si on se lance dans une campagne de numérisation de je sais pas quoi, clairement ça va dépasser. Mais là, si vous avez un projet de recherche, j'ose imaginer que vous avez pris en compte dans le montage du projet les équipements informatiques et les besoins informatiques adéquats. Là, je parle du quotidien. Pour finir sur MyCore, qui propose aussi la sauvegarde à un jour, une semaine et deux semaines. Donc, vous avez le lien pour y accéder. Je mettrai aussi la présentation à disposition pour ceux qui le veulent. Donc MyCore, c'est accessible pour toutes les personnes affiliées à un laboratoire CNRS, si je dis pas de bêtises.
Non, c'est ça.
On confirme.
Toutes les personnes qui travaillent dans un laboratoire.
D'accord.
Ou qui soient déclarées
dans le référentiel du CNRS.
Dans le référentiel, ouais. C'est Reseda maintenant. Mais qui sont. Les étudiants, c'est pareil. Hein. S'ils font leur thèse, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir que ponctuellement, on peut augmenter la taille des 20 gigas.
D'accord, bah, je ne savais même pas. Il ne faut pas trop le dire trop fort peut-être, parce que voilà.
C'est nous qui avons la main pour donner le quota. Ils sont tous à 20. Mais si tu as besoin un jour...
Un besoin spécifique.
Ouais, on peut.
Ouais. Donc en plus, ils sont sympas.
Variable, alors on est capacité de faire.
Non, pas variable.
Alors, vous avez un autre service qui s'appelle FileSender, qui est proposé par le JIP Renater. Donc Renater, c'est historiquement, c'est eux qui s'occupent de tout le l'infrastructure réseau pour l'enseignement supérieur et la recherche, et depuis 25 ans, quelque chose comme ça, et qui depuis quelques années a élargi ses services. Maintenant, ils font un peu tout, et ils le font bien. Typiquement, vous avez un gros fichier, vous ne savez pas comment le transférer à un partenaire, plutôt que de graver sur un CD, de l'envoyer par la poste ou je ne sais pas quelle solution, un pigeon voyageur, vous le mettez sur FileSender, vous l'uploadez, la personne le récupère, le fichier va être disponible sur maximum 21 jours, donc ça laisse 3 semaines le temps que la personne retrouve votre mail dans sa boîte. C'est des fichiers de 2 gigas maximum, donc 2 gigas, on reste quand même sur des belles tailles de fichiers, hein. Même du fichier multimédia, ça passe sans souci. La plupart des besoins sont couverts. Et on peut cumuler, parce que on peut laisser un fichier, puis en mettre un autre 3 jours après pour quelqu'un d'autre, etc. On peut cumuler donc 20 gigas de fichiers. Moi, j'ai jamais atteint la limite. Mon collègue de l'audiovisuel qui lui l'a dépassé, mais parce que il a beaucoup de vidéos. Donc FileSender, c'est proposé par Renater. Donc toutes les personnes des milieux universitaires et recherche y ont droit. Donc ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, on a deux services qui sont un petit peu équivalents. Ça répond à un même besoin. C'est des outils qui sont différents, mais assez similaires. Donc, il y en a un qui s'appelle Exotic, qui est proposé par la DSI de l'Université de Tours. Bon, je vous passe le détail des caractéristiques. C'est 20 jours au lieu de 21 jours, c'est 1 giga au lieu de 2 giga. Bon, c'est à peu près le même genre de service. C'est à vous de voir lequel vous préférez utiliser. Si vous êtes à Tours, utilisez celui de Tours, ils seront contents, ils l'ont mis en place. La même chose pour le campus CNRS d'Orléans, c'est un autre nom, c'est FileX. Globalement, ça fait la même chose. Donc, si vous êtes à Orléans, essayez pas Exotic, mais plutôt FileX. Alors, ensuite, on change complètement de type de service. Il y a un service qui s'appelle Human Inbox, qui est un service assez récent, là, qui vient d'être mis en place à l'automne, enfin, à l'hiver. Qui est proposé par Humanum. Donc Humanum, si vous ne connaissez pas, c'est la très grande infrastructure de recherche qui s'occupe des Digital Humanities en SHS, donc ça s'appelle les humanités numériques. Donc ils ont vocation à aider les laboratoires SHS à passer le cap du numérique via toute une série de services. Donc Humanum Box, bon, on voit la paternité du nom, hein, le box, ça rappelle quelque chose. Pour autant, ça n'a rien à voir avec Dropbox. Eux, ils le définissent comme un service de stockage distribué de données tièdes. Alors les données tièdes, à ma connaissance, c'est eux qui ont inventé le terme, mais c'est pas mal trouvé, enfin, on comprend bien en tout cas. Eux, ce qu'ils expliquent, c'est les données, donc ça concerne uniquement les données de recherche. Hein. L'idée, c'est de, quand on fait des recherches, on accumule beaucoup de données dont on ne sert pas forcément. Alors, soit parce qu'on attend la fin d'un programme, soit parce que on n'a pas le temps, soit parce qu'on les a déjà exploitées pour une certaine chose, mais on se doute bien qu'elles pourraient resservir pour un autre programme de recherche, et donc on a besoin de les garder, mais elles ne servent pas vraiment. Donc c'est pas des données dont on sert en production tous les jours, c'est pas non plus des données dont on a fini l'exploitation, c'est entre les deux. On les garde dans un coin, elles sont tièdes. Donc Human Inbox, c'est quoi? C'est un coffre-fort, une armoire, dans laquelle on met toutes ces données tièdes. Et alors le terme stockage distribué, l'idée c'est que y a des serveurs un peu partout en France, ils sont en train de monter un maillage. Et qu'on a la possibilité, en fonction de la sensibilité des données et de leur importance, de les stocker sur le serveur le plus proche de notre localisation ou de la location des personnes qui y auront accédé, soit de les dupliquer sur plusieurs sites pour faciliter l'accès, pour augmenter le niveau de sécurité, etc. Donc ces données, une fois qu'elles sont dans cette armoire, ces données tièdes, on peut y accéder depuis pas mal de méthodes, soit par le web, donc classiquement, comme un peu tous les services aujourd'hui, c'est pratique, on y accède depuis n'importe où. Si on a beaucoup de données à transférer, à récupérer, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Pour aller consulter, vérifier la présence d'un fichier, en récupérer un, mettre à jour un, ça, il n'y a pas de souci. Pour un usage intensif, c'est pas le mode d'accès que je vais privilégier. On a le client FTP, je ne sais pas si ça vous parle, le FTP. Donc FTP, en deux mots, c'est un protocole de transfert de fichiers. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, un file transfer protocol. C'est une méthode qui a été mise en place pour transférer des fichiers efficacement sur le réseau. Donc ça fait peur comme ça, mais en fait, il suffit d'installer un client, un logiciel. Il y en a plein des gratuits, le plus connu est FileZilla, vous avez peut-être entendu parler. On se connecte à un serveur, et ensuite, c'est comme d'avoir une clé USB. On déplace dans un sens ou dans l'autre, si ce n'est que c'est moins rapide qu'une clé USB parce que ça passe par le réseau. Mais pour peu qu'on ait une bonne connexion réseau via Renater ou qu'on soit pas trop loin du serveur, ça se passe bien. Et en tout cas, c'est un moyen efficace de faire des traitements par load et des grosses interventions sur nos fichiers. C'est vraiment ce qu'il y a de plus adapté. On a le lecteur réseau. Donc ça, ce sera pas donné à tout le monde. Ce sera pour les gens qui auront un serveur vraiment à proximité directe pour avoir la meilleure qualité de réseau possible. Parce que le FTP fait en sorte de corriger s'il y a des problèmes de transfert, ce genre de choses, tout le temps bien vérifier. Le lecteur réseau, lui, bon, on est censé être pas trop loin du serveur, donc c'est censé bien se passer. Donc les règles de transfert sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est plus pratique. Et la GED, alors clairement, ce sera pas en place ni à Tours ni à Orléans, mais il y a des institutions qui sont déjà qui utilisent déjà le service Human Inbox, qui utilisent une GED, à Lyon notamment. Donc la GED, je sais pas si ça vous parle, la gestion électronique des documents. En deux mots, c'est un portail qui va permettre de gérer finement le tri des documents, ses accès, etc. Donc là, c'est une surcouche qu'ils ont rajoutée sur Human Inbox, parce que l'outil le permet. Clairement, dans le périmètre MSH Val de Loire, on sera en tout cas dans un premier temps pas concerné par ce service. Donc l'idée, c'est que on est en discussion très avancée là, avec Humanum pour proposer le service à la MSH Val de Loire, donc pour les laboratoires de Tours et Orléans. Ça va être activé assez rapidement. On ne sait pas encore sous quelle forme. Nous, ce à quoi on travaille, c'est qu'on a un serveur physique, enfin des serveurs physiques dans le data center de la DSI de Tours, Humanum, pour bénéficier pleinement du service et vous en faire bénéficier. On est en train de finaliser, on a à peu près tous les accords, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le service ou si vous n'avez pas bien compris ce que c'était, vous pouvez venir nous voir à l'atelier numérique, donc ici dans le bâtiment, ou nous contacter par email via le site web de l'AMSH, et puis on vous expliquera dans quelle mesure ça peut concerner vos données ou pas. Et puis l'idée, c'est vraiment que le service puisse servir. Donc le petit tableau récapitulatif. Donc j'ai fait des colonnes pour les publics de Tours et Orléans qui n'acceptent pas forcément au même service, et avec des sous-colonnes en fonction du fait que vous soyez plutôt un public universitaire ou lié à des laboratoires CNRS, ou peut-être vous êtes les deux, vous avez de la chance. Donc par ligne, j'ai repris les services. Donc MyCore, on se souvient, c'est l'alternative à Dropbox, donc réservé aux gens du CNRS. Malheureusement,
alors les gens ils sont pas obligatoirement CNRS, hein.
Effectivement,
il faut travailler dans un laboratoire,
il faut être attaché à un laboratoire CNRS,
voilà.
D'une manière ou d'une autre.
UMR, ouais. Sont bonnes.
Ouais.
Les GDR aussi, les fédérations.
Ce que j'ai pas fait apparaître dans le tableau, c'est si par hasard il y a des gens qui seraient intéressés par le service mais qui seraient pas qui trouveraient pas de solution pour pouvoir l'utiliser. Je les ai pas listés parce que je n'ai pas forcément connaissance, mais il y a des initiatives locales de OnCloud, donc le logiciel utilisé qui fait tourner MyCore, qui peuvent tourner. Donc renseignez-vous auprès de vos services informatiques pour voir si par hasard vous n'avez pas un service similaire qui pourrait faire l'affaire, sachant que en utilisant un service national, vous avez quand même plus de garanties que le service soit robuste. Donc Humaninbox, je viens de l'évoquer, hein, le stockage distribué. Ça passe par via l'AMSH. Donc toutes les personnes qui rentrent dans le périmètre de l'AMSH Val-de-Loire sont éligibles à l'utilisation de Humaninbox. Sous réserve que les jeux de données soient intéressants, etc. Mais a priori, on n'est pas là pour refuser aux données d'être bien protégées. Donc ce que j'appelais l'alternative au stockage local, qui est en fait stocké sur un serveur, donc dans un data center proche des DSI, des universités ou du CNRS. Donc l'université de Tours le propose, hein, on a un data center. D'ailleurs, pour ceux qui sont de Tours, vous avez sans doute un lecteur réseau qui est monté quand vous allumez votre ordinateur. Si c'est pas le cas, ça pourrait. Donc contactez votre informaticien qui va me détester, mais a priori il devrait pouvoir trouver des solutions pour que vous puissiez bénéficier de ce service. À Orléans, que vous soyez sur le campus CNRS ou le campus université, a priori il y a des solutions qui existent. Donc Hervé m'a confirmé que sur le campus CNRS c'était le cas. Pour l'université, j'ai pas réussi à avoir confirmation parce qu'il y a eu la personne avec qui j'étais en contact n'était pas joignable, donc mais je serais quand même très fortement surpris que ce soit pas le cas. En tout cas, renseignez-vous. Et pour les services d'envoi de fichiers, donc que ce soit Exotic, FileX ou FileSender, dans tous les cas, qui que vous soyez, vous aurez accès. Parce que FileSender, tout le monde peut y avoir accès. Ensuite, c'est une question de préférence. Ils fonctionnent tous bien, il n'y a pas de gros enjeux, donc faites votre choix, même à la couleur du logo si vous voulez. Alors je sais que Poitiers nous suit. Là, moi, on n'est pas dans le périmètre MSH Val-de-Loire, donc j'ai pas les informations. Par contre, entrer en contact avec la MSH, donc le Poitiers, l'Université de Poitiers, et pareil, je serais vraiment très surpris qu'ils proposent pas des services similaires, pour pas dire les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que FileSender, par exemple, à Poitiers, vous y avez droit, et que Core, dans les mêmes conditions que pour tout le monde, vous y avez droit aussi. Voilà, donc on a évoqué le stockage, on a vu ce que c'était, on a vu. Je vous ai donné des conseils pour où stocker vos informations, vos fichiers et comment le faire. Et une fois qu'elles sont stockées, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Une bonne idée, ce serait de les publier, quand elles ont vocation à être publiées. Si vous avez des articles, des publications, bah, il y a LSHS qui existe, avec l'équivalent pour les images. Si vous êtes thésard, votre thèse finira certainement publiée sur TEL. Si vous avez des documents multimédia, des vidéos notamment, ça pourrait finir sur Canal U ou ailleurs. C'est un exemple. Pensez à... C'est dommage d'avoir des données qui dorment dans un disque dur. Elles peuvent intéresser du monde, elles peuvent resservir, elles peuvent être réutilisées. Donc c'est aussi ça le but de la recherche, c'est que c'est le partage. Et puis une petite piqûre de rappel sur l'archivage. Donc qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça apporte. Donc ce que ça signifie, je vais me répéter un petit peu. Donc vos données sont dans un coffre-fort, vous n'avez plus rien à faire, un organisme va les gérer. Quand je dis va les gérer, c'est notamment qu'elle va les faire évoluer. Hein, ce que ça implique, c'est que vous allez avoir besoin de trier vos données, les convertir le cas échéant. Il faut savoir qu'on ne peut pas archiver tous les formats de données. Un document Word, c'est pas archivable. Alors pourquoi ? Parce que c'est un format propriétaire. Et Microsoft, il peut se réveiller un matin en disant bon bah on change les spécifications du format. Demain, ça marche plus. Il faut racheter une nouvelle version de Word. Ça, je l'invente pas. Ils le font tous les deux ans. C'est pas que j'aime pas Microsoft. Hein, Adobe fait pareil. Ils font tous pareil. Donc l'idée, c'est d'utiliser un format ouvert qui est bien documenté, afin que les services compétents puissent déjà se baser sur ces formats pour en faire une exploitation rigoureuse, et puis les faire évoluer dans le temps avec les formats qui vont les remplacer. Ce que ça implique aussi, c'est d'ajouter des métadonnées à ces données. Vous voyez ce que c'est, les métadonnées ? Non, pas tous. Les métadonnées, c'est des données sur les données. C'est une surcouche d'informations qu'on va mettre sur nos fichiers pour les expliquer, dire dans quel contexte elles ont été produites, en quelle année, avec quel type d'appareil, avec quelle mesure, par qui, éventuellement décrire. Tout ça, ça va permettre de, à des chercheurs futurs ou à vos collègues tout simplement de pouvoir exploiter vos données, parce que d'avoir un fichier avec 1 million de photos JPEG, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment c'était capturé, avec quel appareil, dans quelles conditions, ça on n'en sait rien. On a des données, éventuellement on pourra faire les traitements par l'eau pour le big data, ça va être intéressant, mais on ne saura quand même pas grand-chose. Donc les métadonnées, c'est vraiment très important et c'est même nécessaire pour l'archivage. Sans métadonnées, pas d'archivage. Et alors là, j'ai mis une note, on a beaucoup discuté avant, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il faut savoir qu'on peut pas, au jour d'aujourd'hui, on peut pas archiver tout ce qu'on veut. On peut archiver beaucoup de choses, des images, des sons, des vidéos, des textes. Ça, pas de souci, on s'en sort plutôt bien. Il y a des formats qui ont été établis, on est tranquille. Archiver une base de données, une base de données relationnelle par exemple, c'est un peu compliqué. L'archiver en tant que tel, c'est un peu compliqué. À ma connaissance, à moins que ça ait un peu évolué récemment et que je ne sois pas au bout du jour, encore récemment, on ne pouvait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par exemple, faire des exports en XML des données qui sont dans la base, rajouter des métadonnées, et ça, on peut l'archiver. Mais sous forme de base de données relationnelle, pour l'instant, on ne peut pas. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, il n'y aura pas eu un standard établi. Mais c'est pas acquis, et en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas. Que ça vous empêche pas de vouloir archiver des données parce que c'est absolument nécessaire et aujourd'hui on se rend compte que peu de gens le font et les générations futures vont nous en vouloir. Est-ce que ça apporte ? Évidemment, l'archivage, c'est la garantie de conservation et la capacité de réutilisation par des tiers de ces données. Alors, capacité de réutilisation, je précise, c'est pas n'importe qui pourra la récupérer. C'est, on garde les droits sur les données, c'est nécessité d'accord, etc. C'est pas le domaine, ça tombe pas dans le domaine public quand on archive. Hein. C'est un coffre-fort vraiment pour préserver, mais on garde la main sur nos données. Si vous êtes intéressé pour archiver des données, vous pouvez vous rapprocher de l'atelier numérique de la MSH, Val de Loire. Nous, on peut vous apporter un soutien pour aborder des problématiques d'archivage. La finalité, c'est que ce sera archivé très probablement au CINES, qui est l'un des seuls organismes nationaux, si je ne dis pas de bêtises, habilité à le faire. Et ça se fait via l'aide du Manum, qui a des accords avec le CINES. Et donc la MSH travaille avec le Manum. Vos données pourront suivre le chemin jusqu'au CINES si vous arrivez à les préparer comme il faut. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si tout était clair.